إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المؤمنين عباد الله لقد أنعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين بإكمال الدين لهم وامتن بذلك عليهم فذكرهم بهذه النعمة قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله تبارك وتعالى رضي لنا الإسلام دينا فأكمله وأمرنا أن نقوم به سبحانه وتعالى وقد تكفل تبارك وتعالى بحفظه وصيانته قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فشرع لنا أمورا لصيانة العقيدة وحفظ الدين وإن من أعظم هذه الأمور عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن حال هذه الأمة في خيريتها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإيمانكم بالله معاشر المؤمنين هو الذي ينبغي أن يدفعكم إلى أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر والمسلمون إنهم تقوم بينهم الولاية بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قدم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة رغم أهميتهما بيانا منه لعظم هذا الأمر وهذه الشعيرة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها من أحب الأعمال إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أيها المسلمون عباد الله إن هذا العمل الشريف إنما شرعه الله عز وجل وأمرنا به من أجل أن نصون به ديننا وعقيدتنا فمتى تخلف المسلمون وتخلوا عن هذه الشريعة أصابتهم المصائب العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون له تدعونه فلا يستجيب لكم. فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح الناس في الظلام وعاشوا في معصية الديان الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا دعونا الله عز وجل رد علينا دعاءنا ولم يقبله منا، لأنه أمرنا أن نكون صالحين في أنفسنا مصلحين لغيرنا، كما قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة إلى الله عز وجل وإصلاح الأخطاء وأمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر شعيرة، بل أصل من أصول شريعة الله سبحانه وتعالى، فهو من شكر الله على نعمه. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، أي أنعم الله عليهم بالتمكين في الأرض، فماذا فعلوا بعد ذلك؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا أنعم الله عليهم بالتمكين في الأرض، وما أحوجنا إلى التمكين في الأرض، شكروا الله عز وجل فأمروا الناس بطاعة الله ونهوهم عن معصية الله. وهذه الشعيرة تكفير الذنوب، الله تبارك وتعالى يكفر بها على من قام بها ذنوبه وسيئاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره هو كل ما قد يفتتن به الرجل فينسى ذكر الله بسبب الأموال التي يتمتع بها وألهته عن ذكر الله، أو بسبب أولاده أو بيته أو زوجاته إلى غير ذلك، فينسى ذكر الله، فهذه النعم فتنة، فقد ينسى بها العبد ربه تبارك وتعالى. فهذه الفتنة التي هي ذنب ومعصية تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الشعيرة من حقوق الطريق، فإذا كنت وقفت في طريق من الطرق فاعلم أنك مأمور بإقامة هذه الشعيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فالمؤمن يجب عليه أن يتصف بهذه الصفة، أن يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر. لماذا أمر الله؟ لماذا بعث الله الأنبياء والمرسلين؟ إذا لم يكن من أجل أن يدعو الناس إلى الخير وينهوهم عن الشر. وليعلم عباد الله أن هذا الأمر وهذه الشريعة أو الشعيرة ليست خاصة بأحد دون أحد، بل الكل مسؤول أمام الله. كل من رأى منكرا عليه أن يغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأضعف الإيمان الذي يؤمن بالله أضعف إيمانه، على الأقل أن يجد في قلبه كراهية من الذنوب والمعاصي، إن لم يكن له الاستطاعة والقدرة على تغييرها باليد أو باللسان. وليعلم أن تغيير المنكر يكون باليد إنما على من كان له السلطة كأمير البلد أو الأب الذي هو رب البيت. فإذا رأى من تحت ولايته يقوم بمنكر عليه أن يغير هذا المنكر بيده ومن لم يكن له الولاية والسلطة لا يفعله إلا بإذن ولي الأمر سواء إذن الأب وإذن الأمير وما أشبه ذلك. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من ميت الأحياء؟ من يا عبد الله تعتبره ميتا وإن كان حيا؟ قال الذي لا ينكر المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأجور العظيمة التي يحصل عليها المقيمون بها المقيمون هذه الشعيرة، قال عليه الصلاة والسلام إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم، وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ينكرون المنكر. لا يجوز للمسلم أن يسكت عن الباطل، فإذا رأى شركا بالله أو بدعة أو كبيرة من الكبائر كبائر الذنوب أو أي ذنب من الذنوب التي يعصى بها الإله سبحانه وتعالى عليه أن يبدل هذا المنكر، عليه أن يصحح أخطاء الناس، عليه أن يوجه الناس ويرشدهم إلى ما يرضي الله عنه وعنهم تبارك وتعالى. أما السكوت عن الباطل سبب لعنة الله، قال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ قال تبارك وتعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا لم ينكر المؤمن المنكر الذي يراه أمامه سواء بيده إن كان له سلطة أو بلسانه أو بقلبه، فليعلم أنه يتعرض لسخط الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، cette noble religion qu'Allah تبارك وتعالى nous a légiférée a été complète et parfaite. Elle n'accepte aucune diminution ni aucun ajout. Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce bienfait ses serviteurs, les croyants. Il leur a rappelé ce bienfait afin qu'ils se montrent reconnaissants. Il dit dans le sens rapproché du verset, en ce jour j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Allah n'agrée nulle autre religion que celle de l'islam, parfaite et complète. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala s'est porté garant de la protection de cette religion qui ne sera jamais altérée ou déformée par quiconque jusqu'au jour dernier. Il dit dans le sens rapproché du verset, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le garant. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui préserve et protège sa noble religion. Il a donc prescrit des choses par lesquels il préserve et protège sa religion, subhanahu wa ta'ala. Et sans le moindre doute, parmi les choses les plus importantes qui préservent par la grâce d'Allah sa religion, tabaraka wa ta'ala, ordonner le convenable et interdire le blâmable, prêcher Allah, corriger le faux et inviter les gens au chemin de la vérité. Ceci fait partie des emblèmes de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Plus encore, c'est un fondement des fondements de la croyance du musulman que de croire en l'obligation d'appeler au bien et d'interdire au mal et d'interdire le mal. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne dans son livre que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de toutes les communautés du fait qu'elle ordonne le bien et interdit le mal. Et dans le sens rapproché du verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ce qui veut dire vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. et avez foi en Allah. La foi que ces gens-là dont Allah parle dans ce verset, qu'ils ont en Allah, tabaraka wa ta'ala, les a poussés à appeler les gens à ce qu'Allah aime, à interdire les gens de commettre ce qu'Allah déteste et ce qui lui déplaît, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une des caractéristiques des croyants, une des caractéristiques qui a lié les croyants et qui a fait d'eux des frères alliés. Allah a dit dans le sens rapproché du verset, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et ont foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'ils ont été décrits par Allah. Ils sont alliés, car les alliés sont ceux qui se conseillent mutuellement. L'un d'entre eux qui voit l'autre dans le péché ou l'erreur interdit à son frère de commettre ce mal. Et le deuxième qui voit son frère ayant des manquements dans un bien, lui ordonne de compléter ce manque et donc de se corriger. Car ceci fait partie des actes les plus aimés d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions les plus aimées chez Allah sont la foi en Allah, puis entretenir les liens de parenté, puis ordonner le bien et interdire le mal. Et c'est donc un moyen d'obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lorsque les musulmans vont délaisser le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ils vont s'exposer à une menace d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et encourir un châtiment et une colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez ordonner le convenable et interdire le blâmable, ou alors Allah vous enverra de lui un châtiment. Allah vous enverra de lui un châtiment. Vous vous mettrez alors à le solliciter, vous l'invoquerez, il ne vous répondra plus. Subhanahu wa ta'ala. Allah ne répondra plus à ceux qui ne corrigent pas le mal, qui n'appelle pas au bien. Et si tous les individus de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam se taisaient sur le faux et n'appelaient pas les gens au bien, non seulement ils seraient dans ce bas monde, noyés dans l'égarement, à errer dans le péché, la désobéissance, ils en goûteront les effets néfastes, tant bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Et le châtiment de l'au-delà est bien pire encore. Le musulman n'a le droit de se taire. Quand il voit un mal, il doit le corriger. Et ceci n'est pas une obligation qui incombe à ceux qui sont savants en dehors des autres. C'est tout au contraire une obligation prescrite par Allah, tabaraka wa ta'ala, à quiconque parmi les croyants dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, en fonction de la connaissance qu'il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le réprimande et qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, qu'il le fasse par sa langue, s'il ne peut pas, qu'il le déteste avec son cœur. C'est bien là le plus bas degré de la foi. Le plus bas degré de la foi, le minimum de l'amour en Allah, tabaraka wa ta'ala, implique, si toutefois on est impossible de changer le mal par la main ou la langue, de le détester et d'éprouver dans le cœur l'aversion devant cet interdit d'Allah qui est commis devant ses yeux. Mais si la personne est capable de le changer, elle doit le faire, que ce soit avec la main ou avec la langue. Le fait de changer le mal avec la main, c'est une chose qui est prescrite pour les détenteurs de l'autorité, que ce soit les gouverneurs du pays ou alors les chefs, comme par exemple le papa dans la maison, qui est chef de la maison qu'il habite, de ses enfants et de ce qui se passe dans sa demeure. Si un mal est connu, est commis dans sa maison, il a l'obligation de le changer avec sa main. Et ceux qui sont en dessous de lui et qui n'ont pas cette autorité n'ont le droit de changer le mal avec leurs mains que si le détenteur de l'autorité qui est le père leur en donne la permission. Mais ils peuvent le changer avec la langue. Le musulman ne doit pas se taire quand il voit un mal, car ceci fait partie de la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est par cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit ses serviteurs reconnaissants ou non, dans le sens rapproché du verset. Il nous dit, ceux à qui nous donnons la suprématie sur terre, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône, ordonnent le bien et interdisent le mal. C'est ainsi qu'Allah les a décrits, subhanahu wa ta'ala. lorsqu'Allah les a comblés de bienfaits, lorsqu'Allah les a honorés, quand il les a gratifiés, subhanahu wa ta'ala, et ils se sont montrés reconnaissants, ils se sont souvenus leur passé, où ils avaient de nombreux manquements, puis les nombreux bienfaits par lesquels Allah les a comblés. Et ils se sont dit que pour être reconnaissant vers Allah, il faut appeler les gens à l'obéissance et interdire les gens de commettre le péché, car c'est ce par quoi Allah va leur pardonner leur péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tentation de l'homme qu'il y a dans sa famille, dans ses biens, ses enfants et ses voisins, est expiée et pardonnée par sa prière, son jeûne, ses aumônes et le fait qu'il ordonne le bien et interdise le mal. Les savants ont dit que l'homme est dans la tentation avec sa famille, ses biens, ce qu'il possède, ses voisins. Il est amené à être distrait du rappel d'Allah à cause des biens qu'il possède, à cause de sa famille. Il est amené à jalouser son voisin. Ce sont des choses qui peuvent le pousser à désobéir à Allah. Ses péchés qu'il a commis seront expiés s'il prie, jeûne, donne des aumônes, ordonne le bien et interdit le mal. Et c'est un devoir duquel doit s'acquitter le musulman quand il marche dans la rue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez aux assemblées, donnez à la rue son droit, acquittez-vous de votre devoir envers la rue. Les compagnons lui dirent, radiyallahu anhum, et qu'est-ce que le devoir que l'on a envers la rue? Le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, baissez le regard, épargnez autrui de ses nuisances, répondre à la salutation, ordonner le bien et interdire le mal. Chaque musulman a l'ordre d'ordonner le bien et d'interdire le mal, à grande échelle comme les détenteurs de l'autorité et même à petite échelle comme celui parmi le commun des musulmans qui verrait de ses yeux un mal ou qui verrait un manque. Il doit appeler les gens, ils doivent s'entraider, ils doivent se corriger et prêcher Allah. Bien sûr, pour ce faire, il faut au minimum avoir la connaissance de ce à quoi tu appelles et de ce que tu interdis, car tu n'as pas le droit de parler dans la religion d'Allah sans au préalable avoir acquis le savoir nécessaire à faire ce que tu veux. Tu ne dois pas, au nom du prêche, au nom d'appeler les gens au bien et de leur interdire le mal, les inviter à désobéir. Et combien sont les gens ignorants qui ont peut-être une bonne intention, mais qui n'ont pas la science qui accompagne cette intention? Ils ont été trompés et ils ont perverti plus qu'ils n'ont réformé, comme le disent les pieux prédécesseurs. Si tu appelles à quelque chose, tu dois être sûr que cette chose a été citée par Allah, tabaraka wa ta'ala, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu interdis quelque chose, tu dois en être sûr qu'elle est dans le Coran et la Sunna. Tu dois avoir de la patience, tu dois endurer, car en corrigeant les erreurs des gens, ils vont te nuire. Peut-être qu'ils vont te détester, peut-être qu'ils vont te donner des qualificatifs que tu n'as pas et dire de toi que tu es fou, que tu as été embobiné, égaré, que tu as perdu la raison, que tu suis une secte et toute autre chose encore qui sont dites par ces gens qui sont malheureusement ignorants. Mais tu dois être comme le patient, comme le médecin qui soigne le patient. Le patient est ignorant et il insulte à cause de son manque de patience le médecin qui fait tout pour le soigner. Et si le médecin ne fait pas preuve de patience, il va laisser ce malade comme il est et peut-être qu'il mourra de sa maladie. Mais toi, quand tu prêches les gens, tu les appelles à Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois être encore plus patient que ce médecin, car tu essaies de les sauver de la maladie du péché et de l'égarement de l'obéissance à Allah تبارك وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويبصرنا بالقرآن والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا للإيمان. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم أصلح بنا وأصلحنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا واستجب لنا ولا تجعلنا ممن يدعونك ولا تستجيب لهم. برحمتك يا رب العالمين وفقنا للعمل بكتابك وسنة رسولك وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك سميع قريب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.